À chaque fois que je me rends au Japon, je trouve toujours le temps de visiter les sous-sols des grands magasins qui sont exclusivement consacrés aux sucreries, à toutes les douceurs, en particulier celle de Kyoto. Chaque maison peut avoir des douceurs qu'elle propose depuis des siècles à la consommation et aussi inventer de nouveaux types de douceurs.
C'est absolument, vous goûtiez les mochi mochi, c'est délicieux.
Ah oui ?
Quand on dit mochi d'Aifuku, c'est ce galet rond fourré de pâtes de haricots. La texture idéale, dit-on au Japon, est celle du lobe de l'oreille.
Effectivement, là, la texture est absolument parfaite.
Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur le plateau dont on va déguster wagashi, mochi, dorayaki, azuki. Ces mots ne vous disent peut-être rien et pourtant, ils sont les emblèmes d'une nouvelle passion française pour la pâtisserie japonaise. Il suffit de voir les boutiques artisanales et les livres qui sont consacrés à ce répertoire sucré d'Extrême-Orient. Un répertoire bien éloigné, vous allez le voir, de nos millefeuilles, Saint-Honoré et autres Paris-Brest. Alors, à quoi ressemble-t-il ce répertoire sucré japonais? Pourquoi séduit-il nos palais? Est-il praticable à la maison? Autant de questions qu'on va poser à nos deux invités et preuve que la pâtisserie japonaise est bien ancrée dans notre pays. Ce sont deux Français amoureux de l'archipel qui viennent nous parler de ce patrimoine. Mathilde Amotte, bonjour.
Bonjour.
Vous avez fondé en 2016 à Paris la maison du Mochi. Alors ce fut d'abord un atelier en Touraine et c'est aujourd'hui deux boutiques parisiennes. L'une, rive gauche, c'est ça, rue du Cherche-Midi?
C'est bien ça.
Et vous en avez également une autre, rive droite?
Voilà, rue de Turenne, mais qui est fermée cette semaine.
Qui rouvrira un peu plus tard, c'est ça?
Mardi prochain.
Vous venez de signer également Mochi gelé ici. Alors il est vendu dans un petit coffret façon coffret pâtissier. Tous les secrets de fabrication de cette pâtisserie venue d'ailleurs aux éditions Hachette Cuisine. Et on retrouve également sur votre compte Instagram, la maison du Mochi, plein de techniques et de vidéos très astucieuses. On en a mis un sacré panel sur notre page. On va déguster sur franceinter.fr. Vous nous recevons également. Romain Gaillat, bonjour.
Bonjour.
Vous avez signé Paris-Kyoto, la pâtisserie franco-japonaise. Alors toujours chez Hachette Cuisine, comme quoi cette maison d'édition aime décidément le Japon.
Exactement.
Avec les photos signées d'une photographe décidément aussi incontournable dans l'édition culinaire. C'est Marie-Claire Hérault.
Anne-Claire.
Et ce livre est le prolongement sur le papier d'une pâtisserie et d'une maison de thé très appréciée des gourmets, Tomo, 11 rue Chabanais dans le 2e arrondissement de Paris, qui attire quand même nombre d'amateurs.
Un petit peu de monde, oui.
Mais également, ce qui est bon signe, de japonais en mal du pays.
Beaucoup, beaucoup de japonais expatriés qui viennent chercher le goût de leur enfance un petit peu.
Très bien, on va en discuter avec vous tout à l'heure dans les fauteuils des chroniqueurs. Bienvenue à Elvira Masson et Antoine Gerbel. Bonjour les amis.
Salut tout le monde.
Salut tout le monde, oui.
Elvira.
Encore un mot qui ne vous dira sans doute rien. Kinako.
Ah,
le mot est compliqué,
Kinako.
Mais l'usage est assez simple.
Alors nos invités sourient, évidemment, ouais. Mais à la maison, peut-être qu'on fait un peu la grimace en attendant de savoir ce que c'est tout à l'heure dans l'émission. Antoine?
Alors pour moi, il ne sera pas question de thé, ni de saké, ni de bouillon, mais de macération bien de chez nous.
Voilà, avec un petit accord possible avec les délicieuses douceurs que nous ont apportées nos invités. Si vous voulez mettre vos grains de sel, ou plutôt, en l'occurrence, votre grain de sucre dans notre émission, envoyez-nous vos remarques et vos questions sur notre mail onvadéguster@radiofrance.com ou bien cliquez sur le bouton réagir depuis l'appli mobile de France Inter. Tous les contenus de l'émission, nos coups de cœur, nos recettes, nos podcasts sont à retrouver sur franceinter.fr à la page On va déguster.
France Inter, On va déguster avec François-Régis Gaudry.
Juste avant de croquer dans la pâtisserie japonaise, un petit détour à Lyon, où est né, figurez-vous, en janvier 2020, il y a exactement 2 ans, au pied de la Tour Rose, nous sommes dans le célèbre quartier Saint-Jean, un ambitieux projet gastronomique porté par Ludovic et Tabata May, le couple à la tête du restaurant étoilé Les Apothicaires. Imaginez réparti sur 3 niveaux, un lieu qui multiplie les comptoirs gourmands pour se restaurer sur place. Les anglo-saxons appellent ça...
Un food court.
C'est ça, food court, Elvira, vous avez raison. Eh bien, à Lyon, ça s'appelle food traboule. Petite visite au pas de charge et avec l'estomac dans les talons, en compagnie de Tabata, la plus lyonnaise des chefs brésiliennes.
Bienvenue, food traboule. Alors, ici, on est dans un bâtiment de la Renaissance, au Vieux Lyon. Donc, on a voulu, avec Ludovic, il y a à peu près 2 ans, donc on a ouvert pendant les périodes presque Covid, de réunir de bons restaurateurs à Lyon et de faire un food court gastronomique, parce qu'on utilise quand même les mots gastronomiques même pour les street food, parce que pour nous, les gastronomies, c'est bons produits cuisinés d'une façon respectueuse, il y a du goût et accessible.
Il y a combien de stands gastronomiques en tout à Food Traboul ?
Donc on a 12 et plus un bar dans les deux étages, rez-de-chaussée et premier étage.
Plusieurs salles, plusieurs ambiances.
Donc je pense qu'il faut venir tous les jours pour avoir épuisé les salles et la carte.
Il y a beaucoup de monde, ça veut dire que les Lyonnais sont au rendez-vous ?
Les Lyonnais sont au rendez-vous justement, parce que souvent dans les quartiers très touristiques des villes, finalement les gens qui habitent, ils y vont rarement. Là, les Lyonnais sont présents parce qu'ils aiment manger et du coup, on peut dire que c'est un peu les temples de la gastronomie un peu décomplexée à Lyon. Comme ce qu'on va voir maintenant, donc la Mounière, c'est un bouchon lyonnais très connu à Lyon,
bien
avec
sûr.
Les chefs Olivier Canal, qui a pris justement notre fameuse quenelle débrochée avec la sauce homard au nantua. Il a fait en frites.
Ah, je veux voir ça.
Et il a fait un frite avec une mayonnaise à l'homard, tout simplement.
Bonjour.
Bonjour.
C'est des classiques lyonnais que vous retwistez en fait ?
C'est exactement ça.
Ah oui, carrément, le cornet.
T'as vu, c'est les corners des frites. Et t'as les côtés gourmands des sauces là, qui est même mise en pipette quoi. Donc on a mis la mayonnaise de sauce nantua. Donc c'est en plus, c'est une vraie sauce nantua. C'est-à-dire, c'est fait avec des carcasses, de la carapace des écrevisses, qu'on vient vraiment, t'as les côtés cuisinés.
Incroyable.
Avec une mayonnaise quoi. Donc un petit peu épicée. Et t'as les côtés gourmands de la frite quoi.
Mais on retrouve toute l'identité en même temps d'une vraie quenelle.
Oui, il y a une vraie quenelle, ouais.
Ça fait un carton, ces frites de quenelle ?
Ah bah, ça fait un carton, ils ne peuvent pas enlever de la carte.
You're from America ?
From America, yeah.
Okay. What did you eat ?
I had boban bœuf, et c'était super. We just love the vibe here. We think it's really trendy, really fun. We don't live here, but we were thinking, oh, like, we wish that there was a place like this in the city where we're from. So.
Succès au rendez-vous pour Food Traboul ?
Succès au rendez-vous, on est très contents et ce qui est bien, c'est que ça bouge tout le temps, on change la carte tout le temps parce qu'on travaille avec les produits de saison et ben, on est contents de pouvoir faire vivre ce lieu.
Food Traboul a du succès à Lyon, vous avez vu que même les gourmets américains s'y donnent rendez-vous. Petite colle, vous savez ce que c'est qu'une traboule à Lyon ?
Antoine, très sûr.
Traboulet, ça veut dire traverser.
Pas mal.
Donc les petites ruelles que, bien évidemment, qu'on emprunte dans le Vieux Lyon.
Bravo, et bien, monsieur de la culture, absolument.
Il n'y a pas que monsieur François Régis qui aime Lyon.
C'est ça, c'est un passage piéton, vous avez raison, qu'on trouve dans l'architecture du Vieux Lyon et qui servait en fait de raccourci pour passer d'une rue à l'autre. Et ces passages étaient notamment empruntés par les canuts, les ouvriers de la soie, qui transportaient leur tissu le plus rapidement possible d'un quartier à l'autre. Food Traboul, c'est aussi maintenant de la food et de la cuisine, 12 stands de restauration pour manger lyonnais, asiatique, italien ou encore de délicieux desserts pour tous les budgets. Je sais pas s'il y a un stand japonais justement, faut qu'on se renseigne sur place. Il y a Mathilde Damotte qui me regarde en me disant peut-être que
oui,
on pourrait y faire un confort à mochi, absolument. Food Traboul, 22 rue du Bœuf, dans le 5e arrondissement de Lyon. Et Food Traboul qui a fait la trêve des confiseurs, rouvre demain, lundi 10 janvier. En régie pour mitonner cette émission en direct, Laurent Thomas, Alexandre Chenet, Nadia Chougui. Et c'est toujours Djoubaka qui fait le choix des disques. On embarque pour le Japon sucré, juste après When You Are Mine, le dernier titre de la songwriter britannique à succès, Joy Crooks. Bon dimanche sur France Inter.
But you look good together. I had my hesitation.
Attention, on atterrit en douceur, avec un S à douceur, dans l'archipel nippon pour découvrir des spécialités mystérieuses qui déchaînent les passions en France. Romain Gaïa et Mathilde Amott, on pensait que c'était les Japonais qui étaient fans de pâtisserie japonaise. Ils adorent le Paris-Brest, le macaron, la pâte à choux. On sait qu'au Japon, oui, de nombreux talents sucrés français sont dignement représentés dans les grandes villes. Et on découvre qu'il y a une vraie réciprocité dans cette passion sucrée. Comment expliquez-vous le succès récent des gâteaux japonais en France, Romain Gaïa?
Bon, il est très simple. Les Français adorent le Japon depuis toujours.
Ça, c'est vrai.
Voilà. Et adorent tous les aspects de la culture japonaise. Et la pâtisserie, c'est l'un des aspects, en fait, vastes et passionnants de la culture japonaise sur lequel on s'était, en fait, jamais attaché, on s'y était jamais intéressé.
Est-ce que c'est le goût des contraires aussi? On est très très éloigné de notre patrimoine sucré. Est-ce que ce qui nous fascine ou nous intrigue justement dans le répertoire sucré japonais, c'est notamment le fait qu'il propose un vrai dépaysement parce qu'il est très différent de notre répertoire traditionnel, Mathilde Amott?
Oui, pourquoi pas? C'est vrai que pourquoi maintenant on s'intéresse particulièrement à la pâtisserie japonaise? Je pense qu'il y a plusieurs raisons à ça. Tout d'abord, c'est une pâtisserie qui est végétale, donc ça, c'est vrai que c'est une problématique qui est très présente de plus en plus. Par ailleurs, c'est vrai que moi personnellement, en tant que Française, quand j'ai été vivre au Japon, j'ai été absolument fascinée, soufflée, enfin ça a été un choc, par cette esthétique qui est très moderne, qui est pleine de fragilité. On parle de wabi-sabi, qui est cet art de mettre en valeur le défaut, et le défaut fait quelque chose d'encore plus beau que la perfection pure comme nous on la connaît. Donc je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là également, esthétique.
Le sens de l'esthétique, alors qui est valable évidemment dans toutes les disciplines japonaises. Ah oui. C'est valable aussi dans l'ikebana qui est l'art floral, enfin dans tous les chapitres de la vie quotidienne japonaise, de l'architecture, de l'art. L'esthétique est effectivement très importante. Pour ceux qui n'auraient jamais entendu parler de pâtisserie japonaise, qu'est-ce qu'on pourrait proposer comme définition esthétique? À quoi ressemblent-ils ces fameux gâteaux japonais, Romain Gaïa? Ils sont même très divers, hein.
Oui, c'est quand même un petit peu le cliché, c'est le zen. Le cliché, voilà, c'est quelque chose de très épuré, quelque chose de très simple, et par contre, quelque chose qui va aussi représenter toujours la saison, qui va représenter un produit, qui va représenter une fête particulière. Et donc, on cherche toujours, on est quand même très souvent dans quelque chose de figuratif, et qui cherche à vraiment représenter quelque chose, voilà, une fête, une saison, un produit, etc. C'est pas forcément le cas ailleurs dans le monde. Les fleurs aussi, les plantes, énormément de plantes, hein, notamment des plantes qu'on connaît pas trop par ici.
Sachant que ces gâteaux sont effectivement, comme vous le dites, très codifiés, ils correspondent à des occasions, parfois des régions, des saisons, comme vous le dites. En clair, ce ne sont pas de simples gâteaux ou de simples desserts. Et d'ailleurs, ils sont rarement dégustés à la fin d'un repas.
Alors, ouais, si je peux me permettre, excuse-moi, mais c'est vrai que c'est effectivement le grand cliché sur le sucre au Japon, c'est de dire, ok, les Japonais n'ont pas de dessert, les Japonais ne mangent pas de dessert. Et alors, il est vrai, en fait, ce cliché. Les Japonais ne mangent pas de dessert à la fin du repas.
Ils se contentent en général de quelques fruits.
Voilà, on se contente effectivement de tout un tas de choses, mais pas forcément d'un vrai dessert comme on l'entend, le gâteau, l'entremets à partager, etc., etc. Là, on est plus sur la consommation du thé, en fait. On est sur l'heure du thé, on est sur la cérémonie du thé, on est sur le goûter. Mais dans tous les cas, c'est pas un dessert. Ce qui n'empêche qu'il y a une variété, mais absolument énorme, de sucreries au Japon. Et le fait que ce soit pas un dessert nous l'a un peu caché pendant très longtemps. On s'est dit, ok, ils mangent pas de dessert, donc ils mangent pas de sucre. Et bon, formidable, tant pis. Et en fait, c'est pas vrai du tout. Il y a une variété absolument énorme. C'est juste que c'est pas l'heure du dessert.
On a évoqué l'esthétique, on a évoqué les codes de la pâtisserie japonaise. On n'a pas évidemment évoqué ses goûts très surprenants, qui parfois peuvent approcher une forme de fadeur, mais également ces textures tout à fait insolites, Mathilda Mott.
Oui, alors c'est vrai que c'est, en parlant par exemple du mochi d'Aifuku, dans lequel la maison du mochi est spécialisée, c'est avant tout une texture qui n'a pas de comparaison véritable avec tout ce qu'on connaît.
Sauf peut-être le lobe de l'oreille, comme voilà. Le signalait
si
dans la croche.
Si quelqu'un a déjà mangé un lobe d'oreille, il sait du coup quelle est la texture d'un mochi.
Alors là, je suis sûr que tous les auditeurs sont en train de stater le lobe de l'oreille. Disons que cette petite texture un peu moelleuse peut ressembler effectivement à ce que l'on appelle le Daifuku Mochi.
C'est ça. Le Daifuku Mochi, c'est donc une enveloppe à base de riz gluant qui a cette texture élastique et douce. À au toucher, c'est vraiment très doux et poudré. Et à l'intérieur, traditionnellement, il y a une crème de haricots qui est sucrée et qui, elle, a une texture un peu soyeuse et très, très fine également, avec un petit grain qui évoque un peu la crème de châtaigne.
Alors là, vous nous avez apporté une petite sélection de Daifuku, justement. Alors, il faut pas se tromper avec mochi. Nous, on a l'habitude d'appeler ça mochi. En France, mochi n'a pas tout à fait le même sens et ne désigne pas forcément une douceur au Japon. Expliquez-nous un peu l'ambiguïté qu'il y a autour de ce terme.
Complètement. C'est vrai que quand on dit mochi au Japon, en fait, on n'entend pas du tout les Daifuku mochi que l'on entend nous en France. Mochi, c'est une très grande famille. Donc ça se prononce mochi comme s'il y avait un T avant le CH, puisque mochi mochi, c'est complètement différent. Ça veut dire allô.
Oui.
Et donc.
Et on a tendance à appeler ça, et on a un peu tort, à prononcer mochi en France. On devrait dire mochi, hein.
Mochi. On le prononce avec un T avant le CH.
C'est ça.
Et donc, c'est une très grande famille. Le mochi, dans l'absolu, au Japon, c'est simplement de la pâte de riz gluant qui n'est même pas sucrée. Et donc, ça peut être dégusté, par exemple, avec des natto, qui sont ces haricots fermentés qui sont absolument délicieux. Peut-être pas au goût de tout le monde. Mais donc, c'est une très grande famille. Et à l'intérieur, il y a toute une série de mochi sucrés. Il y en a énormément qui sont confectionnés en fonction des saisons. Comme le disait Romain, c'est hyper important, cette notion de saison. Et donc, dans cette famille, il y a par exemple des dango, ce sont ces petits mochi, des petites boulettes de mochi montées sur des brochettes.
Alors ça, c'est vraiment une madeleine de Proust de beaucoup de Japonais, les dango. Ouais.
Correct. Et il y a aussi les Yatsuhashi, par exemple, qui est une spécialité plutôt de Kyoto. Et enfin, donc, il y a les Daifuku, dans lequel nous sommes spécialisés, et qui, personnellement, est la pâtisserie qui, d'entrée de jeu, m'a le plus touchée, et je ne m'en remets toujours pas.
Vous racontez dans l'introduction de votre livre, Mochi, tous les secrets de fabrication de cette pâtisserie venue d'ailleurs, signée Mathilda Mott aux éditions Hachette. Votre première fois a été un peu ambiguë. La première fois, on est intrigué et ensuite, éventuellement, on tombe dedans et là, on est littéralement passionné. Comment ça s'est passé ?
Complètement. En fait, quand j'ai acheté un Daifuku Mochi...
Vous étiez donc au Japon, hein ?
J'étais au Japon, je venais d'arriver... là-bas. Et donc, je m'amusais à vider les rayons alimentaires de choses que je ne connaissais pas. Donc, j'ai acheté un Daifuku Mochi. Je ne savais pas si c'était salé ou sucré.
Il y a du travail. Hein.
Oui, c'est clair. Je me suis beaucoup amusée cette année-là. Mais donc, je ne savais pas si c'était salé ou sucré. Et je me souviens que la première fois que j'ai mordu dedans, donc je dis mordre et pas croquer parce que ça croque pas, et ben, je peux pas dire si j'ai aimé ou pas aimé. J'étais juste vraiment soufflée. Et j'ai vraiment eu une espèce d'émotion très forte qui est arrivée. J'ai compris après pourquoi. Mais cette douceur incarnée, je n'avais jamais expérimenté une pâtisserie pareille. Et après, j'ai découvert que, en fait, c'est du riz, c'est des haricots, ça correspond à quelque chose de tellement éloigné de notre pâtisserie à nous que, voilà, c'est d'entrée de jeu très, très surprenant.
Et c'est plutôt praticable à la maison. Alors le daifuku, on va peut-être pas se lancer dedans, mais on va essayer de trouver un peu des raccourcis techniques.
Oui.
En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que tout le protocole de fabrication de la pâte à daifuku, du vrai mochi, cette espèce de petite sphère, effectivement très poudrée qu'on peut obtenir, dans laquelle on croque avec vraiment ce jeu de consistance absolument incroyable. Même moi, j'ai eu la même expérience quand je suis allé au Japon. Mmh. On est tout à fait surpris par cette expérience presque multisensorielle.
Complètement.
En tout cas, il y a une façon d'approcher justement cette sensation par rapport à ce petit ourson qui ne ressemble pas vraiment à un ourson, mais vous allez comprendre très vite qu'il y a quand même une similarité.
Oui. Alors en fait, c'est vrai que je parle de ourson guimauve parce que c'est de la pâte de mochi qui est enveloppée de chocolat.
Mm-hmm.
Et en fait, l'effet quand vous croquez dedans est celle un peu de la guimauve. Et c'est vrai que ça peut être la texture qui serait un petit peu comparable au mochi.
Carrément.
Mais donc il y a cette élasticité qu'on a et c'est en fait assez simple à réaliser à la maison. Il suffit de fabriquer la pâte à mochi. Donc c'est de la farine de riz gluant, du sucre et de l'eau, et ensuite de la faire cuire à la vapeur 25 minutes. Ensuite, vous laissez un petit peu refroidir, vous coupez en morceaux, et vous plongez dans du chocolat fondu.
Vous avez oublié une petite étape. On roule aussi cette pâte à mochi dans une fécule de tapioca.
Bien sûr.
Vous voulez savoir quelque chose? Atelier mochi hier après-midi chez moi, avec mes filles. Et c'est parfait. Franchement, j'y suis arrivé, j'ai obtenu justement...
C'était aussi réussi que ça.
Mmh. Ah, pas loin. Non, franchement, j'ai cuit. Alors, il faut obtenir, évidemment, il faut trouver la farine de riz gluant. En l'occurrence, ça se passe à Paris, dans des épiceries japonaises. Mais bonne nouvelle, on peut la commander assez facilement en ligne.
Oui,
et ensuite, effectivement, on mélange avec de l'eau et du sucre. On fait cuire cette pâte à la vapeur. Et puis ensuite, on utilise une corne à pâtisserie parce qu'elle est très collante. Et effectivement, on la roule dans une fécule de maïs ou de tapioca, qui permet de la travailler très très facilement. Et ensuite, on la trempe effectivement dans du chocolat. Et on a vraiment cette texture un peu guimauve, à la fois avec la petite coque croquante de chocolat autour.
Et ce qui est sympa, c'est ensuite de faire un peu à la manière de mendiant, de saupoudrer de graines, et puis évidemment d'une petite pointe de sel. Donc là, j'ai saupoudré de sobacha, donc c'est du sarrasin soufflé et torréfié, et qui va très bien avec le chocolat.
Et ben voilà, transition toute faite. Alors là, pour le coup, les planètes sont vraiment alignées, puisque Romain Gaïa, vous nous avez préparé l'un des classiques de Tomo. On rappelle que c'est une maison de thé et une pâtisserie très emblématique. Oui. Rappelez-nous l'adresse.
11 rue Chabanais à Paris, dans le deuxième, c'est dans le quartier vraiment japonais de la rue Sainte-Anne.
C'est ça.
On a ouvert un deuxième aussi maintenant vers Odéon.
C'est ça.
Rue Grégoire de Tours, où on fait d'autres produits un peu plus street food, de la pâtisserie japonaise, mais toujours de la pâtisserie japonaise, mais des choses qui étaient un peu moins formelles en fait que ce qu'on fait à rue Chabanais.
Vous faites les grands classiques de la pâtisserie japonaise, mais vous établissez également des jumelages gustatifs entre la France et le Japon. Ce chocolat est tout à fait emblématique.
Le chocolat au sarrasin torréfié, effectivement, le sobacha. Alors en fait, le sobacha, c'est une variété japonaise de sarrasin qui va être grillé et qui est consommé là-bas principalement en hiver comme une infusion en fait. Donc c'est pas un thé, hein, parce qu'il n'y a pas de thé, c'est vraiment que du sarrasin.
C'est 100%. Une infusion de sarrasin grillé.
C'est une infusion de sarrasin grillé, voilà, exactement. Et il se trouve que ça se marie vraiment très très bien avec le chocolat. Donc nous, c'est quelque chose qu'on fait depuis le début. On fait des gâteaux avec du chocolat et du sobacha, et on fait évidemment donc le chocolat chaud à la minute qu'on fait en fait à l'ancienne, hein, de façon à la parisienne, mais avec en faisant infuser à l'intérieur du sarrasin grillé.
Comment on s'y prend précisément, les quelques étapes?
Alors, quelques étapes, c'est assez simple. Il vous faut du lait, un très très bon chocolat. Alors au niveau du lait, nous, au début, on faisait du lait de vache, bio, voilà, parce qu'on a pas mal de bons produits. Mais maintenant, on est passé sur du lait d'avoine, parce qu'on a trouvé, pareil, un lait d'avoine bio qui a un très très bon résultat, qui est vraiment très proche du lait de vache. Et il se trouve que les gens, en fait, qui nous demandent du lait de vache, il n'y en a pas. Et ils trouvent que c'est excellent au lait d'avoine. Et par contre, des gens qui demandent évidemment des laits végétaux, il y en a beaucoup. Donc on est passé entièrement maintenant au lait d'avoine. Un chocolat pure origine,
ouais.
70%, c'est quand même voilà un peu important, entre 60 et 70, ça dépend de l'effet. Le chiffre du chocolat, souvent on parle des chiffres et des pourcentages du chocolat, c'est pas forcément gage de qualité, hein, c'est juste une question de goût et de choix. Et puis donc on fait infuser donc le sarrasin grillé dans le lait, on le porte à ébullition, on ajoute son chocolat, on mélange tout ça, on tamise, et voilà.
Le résultat est génial. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis?
Ah, c'est superbe.
Antoine Gerbel.
Avec le petit ourson qui est magnifique aussi.
C'est le petit ourson Mochi.
Non, puis ces petites notes grillées comme ça, torréfiées, c'est super.
Ça se marie vraiment formidablement avec le chocolat.
Ça apporte vraiment quelque chose.
Presque des notes noistées. Il y a quelque chose de très très gourmand.
Et est-ce qu'avec le sarrasin breton,
Antoine Gerbel,
on pourrait aussi travailler de la même
manière? Oui, bien sûr. Alors nous, on travaille en vérité chez Tomo. On travaille la plupart du temps des produits français, des produits bio et des produits français quand on peut. Quand le résultat est le même. Ou même d'ailleurs parfois souvent meilleur en vérité que des produits traditionnels japonais. Après on importe évidemment des produits japonais quand on peut pas trouver en France et qu'il y a pas d'équivalent en France et ou d'équivalent de qualité. Mais dans le cas du sarrasin, oui tout à fait, on pourrait complètement remplacer par du sarrasin français évidemment.
Ouais, très bien. Vous l'appelez comment, le choco soba?
Choco soba.
Choco soba. La recette est évidemment également en ligne.
Dans le livre.
En ligne sur effectivement notre site internet, mais dans votre livre Paris Tokyo, la pâtisserie franco japonaise, toujours aux éditions du Chêne. Vous aviez quelque chose à ajouter, Mathilda?
Ah oui, alors pour moi, mon expérience, c'est que le sarrasin japonais n'a rien à voir avec le sarrasin français, breton. Et j'ai pas trouvé. Je trouve qu'il y a quelque chose de beaucoup plus rustique. Et c'est vrai que c'est pas la même variété. Et c'est vrai que cette petite note de noisette, je la retrouve pas dans le sarrasin français, que j'aime beaucoup par ailleurs. Mais
je suis assez d'accord avec
c'est
vous.
C'est pas le même.
Autre petite question, et ça nous intéresse, sur la sociologie de cette pâtisserie japonaise, la pratique et la dégustation de cette pâtisserie japonaise, serait-elle du genre genré? C'est en tout cas ce que semble nous dire Yumiko Aihara, journaliste gastronomique. Écoutez plutôt.
Chez nous, ça se fait pas. Quand je suis arrivée en France, j'étais très étonnée que les hommes mangeaient beaucoup de chocolat ou quelque chose, gâteau sucré. Souvent, chez nous, pour montrer un peu macho, les hommes refusent de manger des gâteaux.
Qu'est-ce que vous pensez, alors même si on a un contre-exemple sur ce plateau, Romain Gaillard?
Oui.
Est-ce que c'est une affaire de femme, la pâtisserie japonaise? Est-ce que les choses évoluent?
Oui, les choses évoluent quand même, effectivement. C'est vrai que la société japonaise est évidemment très genrée. C'est vrai qu'effectivement, la pâtisserie est plus réservée, en tout cas au niveau de la consommation, parce que traditionnellement, c'est quasiment que des hommes qui étaient les artisans de cette pâtisserie
japonaise.
Ouais, voilà. Aujourd'hui, il y a quand même de plus en plus de femmes maintenant qui remplacent les hommes. Alors, qui remplacent aussi les hommes parce que les hommes parfois s'en vont, parce que c'est aussi moins intéressant financièrement que ce que c'était avant. Mais par contre, au niveau de la dégustation, c'est effectivement beaucoup les femmes, et c'est vrai qu'il y a cette image de tout ce qui est sucré, ça va plutôt être pour les filles ou les femmes, et les hommes, c'est plutôt l'alcool, c'est plutôt le saké, le nihonshu, la bière, et ce genre de choses. Donc c'est vrai que c'est assez divisé. Après, évidemment, c'est comme partout, au niveau des jeunes, ça change quand même, et maintenant, il y a beaucoup de jeunes qui consomment, alors, plutôt des pâtisseries, en fait, d'origine occidentale. Voilà, les jeunes, et notamment les jeunes hommes, vont plus s'intéresser aux pâtisseries d'origine occidentale.
Il y a d'ailleurs deux termes qui définissent ce clivage entre la pâtisserie japonaise et la pâtisserie occidentale au Japon.
Oui, tout à fait. Alors, le japonais, c'est wagashi, donc c'est le Japon et gâteau, ça veut littéralement dire Japon gâteau. Donc c'est assez simple.
Donc là, c'est vraiment la pâtisserie nippone.
Voilà, la pâtisserie nippone.
Wagashi.
Exactement. Et puis yogashi, donc, qui désigne les pâtisseries occidentales. Voilà, donc tout ce qui vient, en gros, de l'étranger. Parce qu'au Japon, il y a en gros le Japon et le reste du monde. Occidental, c'est juste le reste du monde.
Le reste du monde, mais le baking anglo-saxon a également du succès. Si on doit reconnaître quand même que la pâtisserie française a vraiment la place au soleil.
C'est en France qu'on vient se former à la pâtisserie. C'est en France que tous les Japonais viennent faire les écoles pour ensuite ouvrir des boutiques au Japon. C'est
donc
clair.
Les garçons mangent des Paris-Brest au Japon, mais pas tellement de Daifuku Mochi.
Non.
Voilà. En gros, c'est un peu ça. Vous avez bien résumé les choses, chère Elvira.
C'est vrai.
On va donner la parole à notre ami Antoine Gerbel. Alors, on ne sait pas s'il vient nous dépayser ou s'il a une chronique hors sujet ou si, au contraire, ces macérations alsaciennes pourraient trouver un accord avec notre pâtisserie japonaise.
On va déguster sur France Inter.
Antoine Gerbel, parent en Alsace, région très appréciée des gourmets japonais aussi.
Exactement, bien évidemment, parce que bon, l'historique de l'Alsace, tout le monde la connaît, grande région de production de vin blanc, et les clichés, les maisons en colombage, les cigognes dessus, bien évidemment, ces 7 cépages blancs capitaux, blancs. Pas toujours. Parce qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle couleur, pas seulement en Alsace, mais qui s'invite dans les caves, principalement d'une nouvelle génération. C'est vrai qu'il faut en parler, c'est pas les vieilles maisons qui sont parties sur ce sujet, mais le vin orange touche beaucoup de jeunes générations. Qui a été effectivement formé, goûté avec des goûts d'ailleurs, ça a beaucoup plus voyagé. Les gens qui vinifient ont 30 ans, ils connaissent très bien la culture japonaise, notamment, mais aussi américaine, anglo-saxonne, voilà. Donc, tout ça permet aux vignerons de se renouveler un petit peu dans leur style. Et le vin orange, bah, je rappelle rapidement, on en a déjà parlé, on a fait quelques petites chroniques sur le sujet. Le vin orange, c'est tout simplement un vin blanc vinifié comme un vin rouge. Alors l'opération consiste à faire fermenter les raisins blancs avec toutes les parties solides. Parce que traditionnellement, plutôt le raisin blanc, on le met dans un pressoir très très vite, plutôt froid, on le presse et on travaille que le jus blanc. Là, toutes les parties solides, peau et parfois rafle, et bah, ça donne de la texture, des tanins, comme on a souvent dans les vins rouges généralement, et puis d'autres choses, des notes minérales, de la texture et la couleur, d'où cette notion de orange, que moi j'appellerais plutôt ambré, hein, parce que le vrai orange, voilà, oui. Ça ne rappelle pas tout à fait la même chose.
Couleur
et
miel.
Couleur miel ambré. Et cette technique, elle vient de très loin, elle vient principalement du Caucase, depuis de la nuit des temps, ce sont des vins bibliques, hein, avant qu'on ait inventé vraiment le pressurage, avant que Pasteur nous parle vraiment de toutes les délicatesses de la fermentation, les vins blancs méditerranéens étaient principalement faits comme ça. Le retour à ça, c'est peut-être parce que on est un peu trop dans la sophistication avec l'œnologie arrivée dans les années 70, 80, 90, qui est un grand bien, attention, mais voilà, comme une assiette trop parfaite d'un 3 étoiles, on a envie d'avoir peut-être un peu plus de gras sur le cochon, un petit peu plus de cuisson autour des légumes, et ben ces vins-là racontent ça, nous ramènent un petit peu à des racines.
Des vins volontairement imparfaits.
Volontairement imparfaits, mais délicieux, et j'aime beaucoup l'image que vous avez de nos premières bouchées de pâtisserie japonaise, et ben la première gorgée de vin orange ou vin de macération, c'est la même chose. Au début, on dit, mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est pas du tout mon goût, c'est loupé, on part dans tous les sens.
Dérouté,
et puis
quoi.
On revient, comme je dis souvent, le plaisir n'est pas dans la connaissance, mais dans la reconnaissance. Sure. Il faut remarcher sur ses pas. Et là, on trouve vraiment quelque chose de très bien. Alors, ça fonctionne très très bien avec les raisins blancs, bien sûr, mais des raisins blancs plutôt aromatiques. Et je vais dire même une famille un peu chiante, j'utilise le mot. Le Gewürztraminer, c'est pas vraiment un raisin. Moi, j'ai commencé à goûter le Gewürztraminer. Alors, comme tout le monde, vous savez, c'est comme grand écran, le son à fond. Waouh, vous faites, ça sent la rose, le litchi. Et puis, au bout du deuxième verre, troisième bouteille, bah, ça vous fatigue, c'est un peu lourd. Et en prenant ces cépages aromatiques dans le mode de macération, ça apporte autre chose. Ça calme les arômes, c'est-à-dire que vous allez mettre votre nez dans le verre du premier verre que je vous ai servi, vous allez sentir toujours
le plus clair,
oui, si on peut parler de clair vraiment. Mais vous allez retrouver un petit peu de la rose, la litchi, mais beaucoup plus atténué, et vous allez surtout avoir des amers, et des beaux amers. Ces fameuses amers du pamplemousse, vous savez, quelque chose qui en bouche met beaucoup de dynamique dans tous les accords. Alors ça, vous êtes chez... Alors l'étiquette, bon, elle va le faire hurler, bien évidemment, aux traditionnalistes. Elle s'appelle Adultère. Donc, Adulte.
Bonjour, le jeu de mots.
Le jeu de mots avec...
Adulte, apostrophe, terre, T-E-2-R-E.
Voilà. C'est un jeune garçon vraiment passionnant. Il s'appelle Lambert Spielmann. Il a 33 ans. Il a eu un parcours. Il a travaillé dans l'aide aux handicapés, la psychiatrie. Il a beaucoup voyagé. Il est en Nouvelle-Calédonie. Puis il est revenu en France. Il savait pas trop vraiment où se poser. Et il a rencontré la mouvance des vins naturels, dont la Loire d'abord. Et puis il est alsacien. Et puis il a commencé à faire du porte-à-porte pour travailler dans les vignes. Il a demandé, voilà, il voulait être tâcheron. Et il a rencontré quelqu'un qui lui a dit, mais toi, tu m'intéresses. Je vais te donner un hectare. Et ça, je trouve ça fantastique comme histoire, parce qu'il y a un propriétaire terrien qui donne louis, hein, dit voilà, et tu vas faire ton vin pendant 2 ans, et quand tu gagneras de l'argent, bah tu progressivement vas acheter d'autres terres et tu me rendras les miennes. Et je trouve ça super, parce que l'Alsace en ce moment, c'est une région qui fonctionne très très bien, mais qui peine quand même commercialement à se renouveler. Les gens ont goûté l'Alsace, on peut dire, n'est pas tellement dans l'air du temps. Pourtant, les vins blancs fonctionnent très très bien. Et ben, je trouve que cette démarche de ce vigneron est vraiment très intéressante, parce qu'il a permis à ce jeune vigneron de s'installer. Alors tous les vins, c'est très drôle. Les étiquettes, c'est son tatoueur qui les dessine. Donc voilà. Voilà. Y a des cuvées qui s'appellent Mariage Pluvieux, complètement raide, R-E-D. Enfin, vous allez. Mais, ce n'est pas qu'une joke. Ce n'est pas qu'une. C'est quelqu'un de très précis qui sait exactement où il veut aller. Et je défends vraiment cette philosophie. Alors, et le dernier point, j'accélère un petit peu. Là, c'est un truc incroyable que vous avez dans le verre. Vous avez vu quelle couleur? Quelle couleur? Comment vous qualifiez cette couleur?
Une groseille.
Ouais, jus de cerise.
Jus de cerise, bah voilà, vous avez quelque chose. Alors là, c'est encore un truc encore plus dingue.
Qu'est-ce que c'est étonnant, ça? Oh là là!
Ça, c'est chez Getchik, à la famille Getchik, qu'ils ont fabriqué un truc un peu dingue, ça s'appelle Beetlejuice. Alors, c'est une famille qui est bio depuis très longtemps et qui travaille dans l'agroforesterie. Vous allez entendre très souvent parler de ce mot agroforesterie dans les années à venir, parce que c'est, on remet de la vie un peu dans les vignes.
Et l'arbre.
Les arbres au milieu des vignes, et ils ont planté depuis longtemps, il y a des fruitiers. Et là, c'est des cerisiers qui sont proches de cette parcelle de Gewürztraminer, des cerises qui ont été récoltées bien évidemment en juillet, qui ont été mis au frais. Et la parcelle de Gewürztraminer, elle a été récoltée en septembre, et ils ont assemblé dans la fermentation les deux. Alors, c'est pas seulement un vin de fruits, comme on pourrait dire, c'est raconter comment le terroir, on dit, parle tout le monde terroir, des herbes, tout l'écosystème du terroir peut aller, jusqu'où on peut aller, ça. Et ben là, moi j'étais bluffé par cette histoire, parce que, un, c'est très bon, c'est très drôle, dans la texture. Et voilà, on est dans une parcelle alsacienne avec les fruits et les raisins Gewürztraminer macérés.
Beetlejuice, ça donne quoi niveau budget, vos deux cuvées?
On est les vins de macération alsacien, ça commence à 12-15 euros et c'est aux alentours autour de 20 euros. J'ai toute une liste sur le site dont va déguster. Vous allez découvrir vraiment d'autres macérations très intéressantes. Ça commence à 16 euros, ça finit à 25 euros. Et puis, si on veut être un peu rassuré, voilà, il y a des grands domaines classiques comme Ostertag. Arthur Ostertag fait un magnifique vin de macération, ou Weinbar, la famille Faller fait aussi. Donc ça, c'est des grands noms. Donc je veux dire, pour rassurer les gens qui se disent mais c'est quoi ces punks, je dis écoutez la musique, vous allez aimer.
C'est ça, vive les macérations alsaciennes. Plus de renseignements sur franceinter.fr à la page On va déguster. Également une petite surprise liquide et même pétillante de notre amie Mathilde Amotte.
Tout à fait.
Pour accompagner aussi vos mochi.
Le mochi yuzu en particulier. Alors en fait, il se trouve que notre atelier se trouve dans un petit village qui s'appelle Saint-Martin-le-Beau.
On est donc en Touraine.
En Touraine, dans l'appellation Montlouis-sur-Loire. Mm-hmm. Et donc à quelques centaines de mètres de là où nous confectionnons nos mochi, il y a les vins notamment du Rocher des Violettes.
Xavier Weisskopf.
C'est ça. Qui travaille de manière avec des vins naturels. Et donc on a choisi ce pétillant originel 2019 qui a, vous allez voir, donc c'est du chenin.
C'est chouette.
Donc le chenin, on le décrit comme sec et tendre, enfin ciselé et doux à la fois, donc c'est vrai que ça correspond déjà super bien au mochi. Et en plus avec le yuzu citron, vous allez voir, on a en sorte d'accord autour des agrumes, puisque c'est une cuvée qui est assez forte en agrumes.
L'avantage du pétillant naturel, c'est que c'est effectivement, il y a un petit peu moins de sucre résiduel que dans les vins de macération, mais le chenin donne aussi des très grands vins de macération.
J'adore,
qui vont très très bien.
Oh là, je viens de tenter l'accord. Et le pétillant prolonge le goût un peu de clémentine, assez acidulé du yuzu, et votre mochi est prodigieux en termes de texture.
Merci, oui.
On est vraiment sur un coussin rebondissant, on a l'impression que les mâchoires font un peu du trampoline.
Et puis ce parfum de yuzu, on dirait un curd de yuzu, un petit peu, c'est très très long.
C'est tout à fait étonnant. On va continuer notre voyage au sein des douceurs japonaises. Dans un instant, on va même évoquer avec Romain Gaïa une préparation emblématique de la pâtisserie japonaise, Anko,
oui,
comment on dit exactement ?
Anko,
la fameuse pâte d'azuki, c'est le haricot rouge qui est vraiment au cœur de très nombreuses spécialités nippones. En guise de mise en bouche, je vous propose d'explorer les yokan.
Oui,
comment vous les définiriez, les yokan, Romain ?
Les yokan, alors c'est ce qu'on appelle un mizugashi, donc c'est un gâteau avec beaucoup d'humidité à l'intérieur.
C'est ça.
En fait, c'est une sorte de gelée à base de crème de haricot rouge. Donc c'est du haricot rouge qu'on va confire, comme pour toutes les autres préparations, à base de haricot rouge. Et par contre, après, on va la filtrer. On va la filtrer en différents tamis de plus en plus fins pour avoir quelque chose de très lisse et quasiment comme une crème de marron, en fait. Voilà, qu'on va faire prendre en gelée, et c'est quelque chose de très très traditionnel.
Et bien justement, je vous propose d'entendre le court extrait d'un ouvrage que vous connaissez sans doute, Éloge de l'ombre,
bien
de
sûr.
Jinuchiro Tanizaki. Oui. C'est un... Ah bah vous l'avez avec nous, voilà, la vie est bien
c'est
faite.
C'est la référence.
C'est un extrait de l'émission de Bouche à Oreille en 2006 sur France Culture.
Déposé maintenant sur un plat à gâteau en laque, cette harmonie colorée qu'est un yokan. Plongez-le dans une ombre telle que l'on ait peine à en discerner la couleur, il n'en deviendra que plus propice à la contemplation. Et quand enfin vous portez à la bouche cette matière fraîche et lisse, vous sentez fondre sur la pointe de votre langue comme une parcelle de l'obscurité de la pièce, solidifiée en une masse sucrée. Et ce yokan, somme toute assez insipide, vous lui trouvez une étrange profondeur qui en rehausse le goût.
Si j'étais un oiseau, je survolerais les villes, je survolerais les campagnes, les parkings, d'autres parkings, des monuments, des chantiers, je survolerai des chantiers. Si j'étais un oiseau, même un tout petit, je survolerai le pays avec le vent, avec les nuages, avec les avions de chasse, les avions de chasse, les avions de ligne, je survolerai les vignes, je mangerai les raisins, je chierai les pépins le long des cours d'eau, si j'étais un oiseau. Si j'étais un oiseau, mais je ne suis qu'un serpent, et ma vie est à terre, mon vent sur la pierre où je ferai ma tombe. Je ne suis qu'un serpent, et de muse en muse, de prairies en prairies, je perpétue mes hécatombes. D'ailleurs, je mange les œufs de colombes.
Bertrand Belin avec le saxophoniste Laurent Bardenne du groupe de jazz Tigre d'eau douce. C'était le titre Oiseau.
France Inter. François-Régis Gaudry. On va déguster.
Quand je faisais cuire la pâte de haricot, vous me demandiez souvent ce que je fabriquais, n'est-ce pas? Vous me demandiez si j'entendais quelque chose, le visage tout près des haricots à Souki. Je n'aurais pas su quoi vous dire si ce n'est que j'étais à l'écoute. Mais il me semblait qu'une telle réponse vous aurait perdu, alors j'ai préféré rester vague. Il s'agit de bien observer la mine des haricots à Souki, de s'ouvrir à ce qu'ils nous ont à nous dire. C'est par exemple imaginer les jours de pluie et de beau temps qu'ils ont connus, écouter l'histoire de leur voyage, des vents qui les ont portés jusqu'à nous.
Merci Elvira pour cet extrait d'un roman, mais également d'un film que vous aimez beaucoup. Vous avez eu l'occasion d'en parler déjà à ce micro.
Alors le roman, c'est Les Délices de Tokyo, le
incontournable,
film
incontournable. Délices de Tokyo
de Dorian Sukegawa, qui met en scène Tokue, une mystérieuse vieille dame aux doigts complètement déformés, qui est la narratrice de l'extrait que je viens de vous lire. Elle est engagée par Sentaro dans l'échoppe de Dorayaki qu'il tient péniblement et sans talent particulier. Mm-hmm. Cette vieille dame va tout lui apprendre à Sentaro, sans dire un mot, de la préparation du han, la pâte de haricots rouges, qui garnit justement ces fameux Dorayaki dont on va parler. Et elle va lui expliquer également les secrets, elle va lui révéler les secrets qu'elle cache. Si vous ne l'avez pas lu, mais vraiment faites-moi confiance, c'est absolument bouleversant.
C'est ça se dit bien.
Ça se dit très vite. On peut aussi renvoyer nos auditeurs au film de Naomi Kawase.
Si vous n'avez pas vu le film de Naomi Kawase, ben je vous envie.
C'est encore mieux.
Alors. C'est ça.
Oui, en image, c'est magnifique. C'est vraiment, vraiment sublime.
Ouais. C'est un très joli petit film qui est en place sur toutes les plateformes. On tient à le dire. Et qui, effectivement, est une espèce d'hommage au Dorayaki. Et ben, on en vient à cette question. Mais juste avant, on a une auditrice qui tient à nous dire que la pâtisserie japonaise n'est pas qu'une affaire parisienne, cette
Dominique
passion-là.
Dominique Cousin, qui est toulousaine, nous partage une merveilleuse pâtisserie qui s'appelle Un petit gâteau, tenu par la chef pâtissière Kayo Akiyama, à découvrir absolument.
Est-ce que vous connaissez cet établissement?
J'en ai entendu parler en bien.
Voilà, donc on peut renvoyer nos... C'est à Toulouse, hein?
À Toulouse.
On peut renvoyer nos auditeurs à cette adresse, évidemment. Alors, le Dorayaki, on va faire les choses dans l'ordre, parce qu'il y a Dorayaki, mais il y a également cette fameuse pâte de haricots rouges. Dites-nous quel est le rapport entre les deux, Romain.
Alors, le Dorayaki est traditionnellement toujours fourré de pâte de haricots rouges, confite, donc dans laquelle on va retrouver un petit peu de grains de haricots rouges, donc ça va avoir un peu la même texture que le marron glacé.
Sachant que pour ceux qui n'auraient jamais entendu parler de Dorayaki, y compris en passant par l'étymologie...
Alors, ça veut dire gong cuit. Ça ressemble effectivement, enfin, c'est l'une des étymologies possibles. Ça ressemble effectivement à un petit gong. Et ce qui est marrant, c'est que effectivement, ça gonfle un petit peu comme une madeleine, avec quelque chose de très gourmand, voilà, dans le cœur.
Donc,
ça,
une petite bosse.
Quand ça cuit, ça fait une petite bosse, exactement. Et ce qui est effectivement intéressant, c'est que c'est un peu aussi la madeleine de Proust des Japonais.
Oui.
C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qu'on mange depuis qu'on est tout petit, qu'on connaît depuis toujours. Et donc, qui rappelle toujours, voilà, l'enfance ou l'ancien temps. Il y a même des entreprises, d'ailleurs, qui le font avec des recettes un petit peu ratées d'une certaine façon. Avec beaucoup de bicarbonate, donc avec un côté presque un petit peu salé.
Parce que si je vous dis que le dorayaki, pour que nos auditeurs derrière leur poste de radio s'en fassent une idée, et le pancake japonais, attention, il va s'énerver.
Je vais avoir un début de coma.
Romain Gaïa ne va pas être content du tout. Expliquez-nous pourquoi. Attendez, ça ressemble quand même à une grosse crêpe bien gonflée.
Ça ressemble à une grosse crêpe bien gonflée, c'est vrai, mais il n'y a pas du tout de produits laitiers, déjà.
Voilà. Ça, c'est important, parce que le pancake à l'anglo-saxonne, il y a du lait.
C'est que du lait.
Et il y a des œufs.
C'est du lait, des œufs. Évidemment.
Ça n'est pas le cas du dorayaki.
Si, il y a quand même des œufs.
Ouais.
Il y a quand même des œufs, mais il y a effectivement pas du tout de produits laitiers. Et puis surtout, à l'intérieur, bah voilà, c'est ce fameux haricot rouge confit. Et c'est quelque chose vraiment de très différent. On est dans un monde entièrement différent. À l'origine, on suppose que c'était fait avec des farines de riz, à l'époque. Voilà. Et que c'est ensuite passé sur farine de blé, sous l'influence portugaise, hein, qui a apporté beaucoup de choses au Japon.
Ouais.
Et donc, ça serait passé sur farine de blé, néanmoins, en restant dans la catégorie wagashi. Donc, en restant dans la catégorie pâtisserie japonaise. Donc les Japonais l'ont intégré à leur culture, ils ont rentré effectivement la farine de blé à l'intérieur en le mélangeant avec le haricot rouge, mais c'est resté quelque chose de traditionnellement 100% japonais.
Parce dans que... le wagashi, pardon, il n'y a jamais de produits laitiers, jamais.
Jamais. C'est quasiment entièrement végétal.
Et ce qui est étonnant par ailleurs, c'est que cette fameuse farine de blé qui sert à la fabrication des dorayaki, on la trouve très très peu dans d'autres spécialités. C'est pas commun la farine de blé dans la pâtisserie japonaise.
Non, pas du tout. Bon, on est évidemment hein, sur le riz, les haricots, comme je vous disais tout à l'heure aussi beaucoup de plantes, des racines de plantes, voilà, des fécules de plantes. Voilà, on est vraiment dans un monde entièrement végétal. Beaucoup de fruits frais aussi, évidemment beaucoup de fruits séchés à l'origine. Voilà, mais du coup évidemment rien qui vient de l'animal à l'origine et aujourd'hui encore effectivement très très peu.
Et le dorayaki dans sa version complète, ça correspond à une espèce de petit hamburger sucré pourrait-on dire.
En tout cas,
c'est deux grosses crêpes.
Oui.
Bien moelleuses.
Bien gonflées, très moelleuses.
Bien gonflées, qui enferment justement
très
cette
phase, comme on dit.
Très
foie-foie, comme on dit.
C'est-à-dire.
En japonais, c'est une onomatopée, effectivement, qui veut dire que. Alors, ça représente exactement le son que ça fait, hein. Foie-foie. Voilà.
Il y a beaucoup d'onomatopées qui permettent de désigner des consistances et des textures au Japon.
Bah d'ailleurs, mochi, c'est devenu une onomatopée, hein. En fait, mochi-mochi, on peut aussi l'utiliser pour dire, voilà, quelque chose de mou, quelque chose de. Vous pouvez parler de la joue d'un enfant et dire que c'est mochi-mochi, quoi.
Ou le lobe de l'oreille.
Mou et ferme à la fois. C'est le fameux lobe de l'oreille.
C'est le fameux lobe de l'oreille, c'est ça.
Voilà.
Alors le dorayaki, et ben comme par miracle, il est atterri sur le plateau dont on va déguster.
Mais oui,
puisque vous en faites dans votre salon de thé, Tomo, c'est Elvira qui va le goûter. Et pendant ce temps-là, on va.
Je vais pas me faire prier.
On va goûter ces confits d'azuki, enfin en tout cas cette confiture ou ce confit de haricots rouges.
Alors on parle de confit pour le faire comprendre, il faut savoir que c'est quand même beaucoup moins sucré qu'une confiture. En traditionnel, les confitures en France, je crois que c'est à partir de 40% de sucre, si je ne me trompe pas, je ne suis pas spécialiste. Mais là du coup on est vraiment sur beaucoup moins, hein. On est je crois maximum à 30%. Donc c'est voilà, c'est pas confit comme une confiture, néanmoins on retrouve vraiment la consistance, comme je vous disais, du marron glacé, ce côté vraiment très fondant.
Et pas que la consistance, hein.
Et un peu du goût.
Moi, il y a des accents de châtaigne.
Il y a des accents de châtaigne.
Et en Ardèche.
Un petit peu, c'est incroyable.
Et en même temps, c'est plus subtil, plus délicat. Là, on a deux versions. Vous avez aimé ou pas, Antoine Gervel?
Ah, j'ai adoré. Alors, c'est vrai que je connais plus la version compacte, hein, comme ça, qui raconte un petit peu aussi la parenté avec la châtaigne. Mais j'adore aussi le grain, parce que quand la peau, comme ça, du haricot arrive sur la langue, et puis que la peau s'échappe.
Oui,
et donc, on a une décomposition du haricot avec le sucre mais pas trop.
J'adore ça.
Le voyage est en bouche. Hein.
Quelle splendeur. Il faut imaginer une couleur un peu prune.
Un peu prune, ouais, tout à fait, un peu prune. Et puis le biscuit, c'est vraiment le miel. En fait, ce qui fait aussi l'une des spécificités, vous me demandiez sur le dorayaki, c'est l'usage du mirin. Donc en fait, c'est un saké, hein, c'est une fermentation de riz, très sucré, et qui sert d'agent sucrant avec le miel. Donc c'est vraiment le mirin et le miel qui vont apporter à la fois le liquide et le sucre dans la pâte du dorayaki. Ouais.
Et c'est à peu près faisable à la maison, le dorayaki.
Oui, tout à fait. Ben nous d'ailleurs, voilà, chez Tomo, dans nos deux boutiques, on le fait toujours à la minute. Donc quand c'est commandé, il y a encore quelques artisans au Japon qui le font comme ça aussi. Quand vous le commandez, on vous le fabrique vraiment à la minute. Il est servi chaud, en fait, voilà, devant vous. Et c'est vrai que chaud, c'est quand même bien meilleur que évidemment en sachet avec des délais longues. Voilà, c'est autre chose.
Alors c'est un très beau spectacle à observer, la fabrication du dorayaki.
C'est superbe.
Oui,
c'est assez faisable à la maison, mais c'est toujours la même chose. Quand on a préparé cette émission, Mathilda Motte, vous m'avez dit le dorayaki. Yaki, quand on veut vraiment bien le faire, c'est l'histoire d'une vie.
Oui, c'est vrai que de toute façon, de manière générale, au Japon, on est extrêmement perfectionniste. Et le dorayaki, pour savoir, enfin, je l'ai fabriqué pour avoir ce velouté, cette homogénéité dans la couleur. C'est vraiment extrêmement compliqué. Il faut avoir pile poil la bonne température. Enfin,
Oui, c'est une question de temps et de précision. En fait, la pâtisserie japonaise, c'est ce qu'on disait avec François il y a pas longtemps. Effectivement, c'est souvent des produits très simples. Ça a l'air un petit peu simple. Ça a l'air un petit peu vide. Ça a l'air un petit peu zen. Ça a l'air un petit peu, parfois même un petit peu austère. Mais voilà, on est sur la précision et on est sur la qualité des produits.
Bien sûr.
Et des produits de saison. Des textures super pointues.
Voilà, des textures pointues, maîtrisées.
C'est comme ces sushiya à Tokyo. C'est Maître Sushi qui vous explique qu'à 73 ans après 50 ans de carrière, ils font encore des progrès dans leur quête du sushi parfait. Elvira.
Je crois qu'on a oublié d'évoquer le temps de cuisson du haricot rouge. Sonia, une auditrice, nous écrit « Souvenir amusé de tentative de fabrication de pâte de haricot rouge. La cuisson a été tellement longue que la plaque à induction a grillé. Nous sommes régalés, mais la gourmandise nous a quand même coûté cher. »
Quel temps de cuisson pour vos deux pâtes d'azuki?
Quasiment 48 heures.
Ah oui, d'accord.
Alors, donc, un bilan carbone un peu élevé aussi. Quand même.
Et la bonne nouvelle, c'est que des haricots rouges, on en trouve maintenant plaque, bio et cultivés en France.
La plaque n'est pas allumée à feu fort pendant 48 heures. Il y a des temps de repos.
C'est un process.
Il y a des temps de repos.
Le process
s'étend sur 48 heures.
Voilà. Très bien. Et ben écoutez, en tout cas, on a adoré ces dorayaki. On peut les préparer en lisant votre livre. On peut les déguster sur place chez Tomo, deux adresses à Paris. Mais on va passer à un autre ingrédient très important avec notre amie Elvira Masson.
On va déguster sur France Inter.
Parce qu'au début de votre livre, Romain, on trouve deux doubles pages de glossaire des ingrédients qui reviennent tout le temps dans la pâtisserie japonaise. Alors, azuki, matcha, yuzu pour les plus connus. Moshi gome, kurogama, honkuzu, dont nous sommes nombreux à ne toujours pas connaître l'existence. Et ce kinako sur lequel je me suis arrêtée. Alors, le kinako, c'est du soja torréfié et broyé, transformé en une poudre dorée. Historiquement, au Japon, il est originaire de Kyoto, je crois. Vous en vendez chez Tomo, Romain. Et moi, j'avais envie de savoir si des entreprises françaises s'étaient lancées dans la vente de ce produit vraiment très niche.
Eh bien, je ne crois pas.
Mais si. Et la réponse est oui. Celui-ci, je vous ai apporté, que quand on est en train de photographier, vient d'une petite entreprise qui s'appelle Aromandise, qui est située du côté de Montpellier, et qui produit ce kinako bio.
Kinako made in France.
Issu de soja bio produit en France. Et qu'il présente, à mon avis, un bon avenir pour le kinako comme un super aliment.
C'est celui
riche.
Que nous utilisons aussi. C'est ça. Celui d'Aromandise. Ouais.
Voilà. Oui. Celui que vous utilisez aussi. Ouais, il est bien, super. Super.
Il faut découvrir des choses à Romain Gaillard.
Très bien.
Un super aliment, donc ce serait donc un produit d'avenir riche de 9 acides aminés et évidemment riche d'une très forte teneur en protéines. Le soja est riche en protéines. Et il se passe en effet quelque chose avec la culture du soja française et bio. Culture du soja, on pense plutôt culture intensive, déforestation d'Amazonie, OGM, nourriture pour élevage intensif. La culture de soja bio a fait un bond de 30% en 3-4 ans et à la faveur ou à cause d'eux ou grâce au réchauffement climatique et à la sélection variétale, on cultive désormais du soja bio, pas seulement dans le sud-ouest ou dans l'est, mais également en Bretagne et dans le nord. Alors vous précisez, Romain, dans votre livre, que le kinako s'utilise en saupoudrage ou en ingrédient, je vous cite, comme une poudre d'amande. Alors ça m'a intriguée, sinon j'aurais jamais songé à me servir de kinako. Alors moi je connaissais uniquement le kinako dans son utilisation dans le wallabi mochi, un mochi à la fécule de fougère qui est entouré ou enrobé de cette poudre magique, de ce kinako, et j'avais trouvé cette saveur de kinako complètement inoubliable. Il y a un côté comme ça, torréfié, presque malté, on dirait du malt.
C'est vrai, un peu.
Beurré aussi.
Beurré aussi, mais très particulier, difficile à qualifier, un peu noisté, sésame, légèrement cacahuète, avec une rondeur un peu sucrée. Donc, comme une poudre d'amande, ni une ni deux, je me suis dit, quand je fais un crumble ou un cobbler, de manière générale, je coupe la farine avec la poudre d'amande. Cette fois, j'ai fait un crumble au poire que j'ai coupé avec un peu de kinako, 50 grammes de farine, 50 grammes de kinako, 50 grammes de sucre. J'ai pas utilisé de sucre complet parce que j'avais peur qu'on perde un peu en croustillance. Le kinako fait légèrement perdre en croustillance aussi. Et puis je vous ai préparé également un granola, parce que ce qu'on aime dans le granola,
il est pas mal.
Il manque un tout petit peu de croustillant quand même.
Ouais, pas mal.
Et ce granola, parce que ce qu'on aime justement dans le granola, c'est ce côté torréfié
et maltais, donc ça m'a paru assez logique. Et là, je vous ai fait un granola 100% français. Des flocons d'avoine et de châtaigne, du miel, du sucre blanc, des noisettes du Lot-et-Garonne, de la noix du Périgord, des graines de courge d'Anjou, de la purée de noisettes française et ce quinaco français. On mélange tout, on étale sur la plaque du four sur du papier sulfurisé et on passe ça au four pendant 30 minutes à 150 degrés. Magnifique. Voilà ce quinaco granola 100% français.
Génial.
D'obédience japonaise, un peu.
Et pour poursuivre la sensation quinaco, vous nous avez apporté des mochi.
Oui, des
justement, qui sont poudrés de quinaco.
De quinaco, oui, oui. L'anko, le mochi à l'anko, haricot rouge, est poudré de quinaco.
Bravo.
Et c'est vrai que c'est une association quinaco-anko, haricot rouge, qui est super chouette.
Mathilde Amotte, mochi, tous les secrets de fabrication de cette pâtisserie venue d'ailleurs aux éditions Hachette Cuisine et la maison du mochi à Paris avec plein de goûts différents. Il y a sésame noir, yuzu, pistache.
Chocolat et sarrasin.
Bravo.
Qui a été fait avec Laurent et Kyoko Duchesne.
Très très belle, vraiment très belle création. Romain Gaïa, Paris Kyoto, la pâtisserie franco-japonaise toujours chez Hachette Cuisine, avec des photos signées Anne-Claire Hérault et la pâtisserie Maison T. Oui. Tomo, 11 rue Chabanais, et une deuxième adresse, c'est bien ça.
Oui, c'est 16 rue Grégoire de Tours à Odéon dans le 6e.
Un grand merci Romain. La semaine prochaine, on perce les secrets et le parfum envoûtant de la truffe noire. Tubermelenosporum pour les intimes, avec un reportage sur place dans le Périgord et les recettes de la chef. Stéphanie Lequelec, Jérôme Gagnès et Éric Morin seront dans les fauteuils des chroniqueurs. À dimanche prochain, si vous avez encore faim.